8h19, votre invité Frédéric Rivière, vous recevez ce matin Mohamed Bida, ancien attaché de sécurité intérieure à Kaboul jusqu'en 2021 et auteur de 13 jours, 13 nuits dans l'enfer de Kaboul.
Bonjour Mohamed Bida.
Bonjour.
Et dans ce livre, donc 13 jours, 13 nuits dans l'enfer de Kaboul, publié tout récemment, vous racontez cette opération d'évacuation de près de 3000 personnes par les services français en août 2021, alors que les talibans prenaient Kaboul. Ce qu'il faut dire d'abord, pour la petite histoire d'une certaine manière, c'est que ce livre n'était pas prévu, en tout cas pas aussi vite. Au départ, vous preniez des notes dans l'idée de rédiger un rapport qui finalement ne vous a jamais été demandé.
Absolument. En fait, je n'avais pas pris de notes en étant sur place parce que je n'avais pas vraiment le temps. Mais c'est vrai qu'en rentrant, je prépare un compte-rendu détaillé pour expliquer à mes autorités ce qui s'est passé pendant ces événements, avec une précision que vous retrouvez dans le livre, évidemment. Et effectivement, l'idée du livre s'est imposée à moi quand j'ai commencé à pouvoir expliquer comment je m'étais retrouvé à Kaboul. Mmh. Et surtout quand j'ai voulu... faire passer des émotions dans ce que j'écrivais. Je voulais que les gens ressentent ce que j'avais vécu. Oui. Et c'est vrai que dans un rapport de police, c'est pas vraiment l'objet.
Oui. Ce matin du 18 août, dites-vous donc dans ce livre, nous entrons dans une nouvelle phase et nous ignorons encore que la tâche qui nous attend est sans commune mesure avec celle que nous avons connue à l'ambassade, puisque depuis plusieurs jours, une foule de plus en plus importante vient tenter de se réfugier à l'ambassade. Nous allons être, dites-vous, les acteurs et les spectateurs de l'une des évacuations de masse les plus difficiles de l'histoire et de la débâcle de la communauté internationale qui regardera hébétée se jouer une tragédie humanitaire qu'elle n'aura pas vu venir. Vous avez eu à ce moment-là l'impression de vivre un moment d'histoire ?
Absolument. Absolument, c'était que ce soit à l'ambassade de France ou à l'aéroport, on était dans un huis clos, dans un univers concentrationnaire, au milieu d'une foule qui était dans un état d'hystérie collective, et dans un état de terreur. Et c'est la terreur qu'on pouvait lire sur les visages de toutes ces personnes qui nous demandaient protection, qui réclamaient notre aide pour quitter le pays, qui fait que, à ce moment-là, j'imaginais pas que je vivais un moment d'histoire, mais je savais que j'étais au milieu d'une tragédie. Au milieu d'une tragédie humanitaire, d'abord. Et ensuite, s'est imposé à moi rapidement le fait que nous étions dans une situation qui pouvait rapidement dégénérer, voire même hypothéquer toutes nos chances de quitter le pays.
Est-ce que vous avez eu peur parfois ?
Toujours. Toujours, y compris quand j'étais...
La peur n'évite pas le danger, dit-on, mais elle est bonne conseillère parfois.
La peur est très bonne conseillère, surtout quand on est policier, parce que ça, effectivement, ça permet d'avoir un esprit d'analyse plus acéré, parce que la peur doit faire partie de notre quotidien, effectivement. On n'est pas des surhommes, les policiers ne sont pas des surhommes. Et quand on est dans ces conditions-là, on pense à nous, évidemment, mais on pense surtout à nos proches. Et c'est vrai que la difficulté, c'est de rassurer. Moi, ça a été mon objectif, rassurer ma famille, comme l'ont fait mes collègues, parce qu'on veut pas, on partage pas les angoisses. On partage les moments de bonheur, mais jamais les angoisses.
Vous diriez que ça a été l'opération la plus difficile de votre carrière ?
Ça a été la plus difficile. La plus difficile en intensité. J'ai connu des moments très très compliqués dans la police, puisque je travaillais dans le domaine du grand banditisme. Mmh. Mais c'est vrai que celle-ci, en charge émotionnelle, en charge de responsabilité, parce qu'à un moment donné, on sent qu'on a cette impuissance à pouvoir apporter des solutions, à régler les problèmes, et on essaie de ne pas se décourager, mais c'est vrai que ça a été le moment peut-être le plus intense de ma carrière professionnelle.
Pour mener à bien donc cette opération d'évacuation, vous avez dû négocier avec des talibans qui venaient d'arriver à Kaboul, conquérants, forts de leur progression éclair, et pour négocier, comme on dit parfois un peu familièrement, en principe il faut avoir un peu de biscuit, il faut avoir quelque chose à proposer. Vous aviez quoi à mettre dans la balance ?
Je n'avais absolument rien à proposer aux talibans. J'essayais de me servir de la situation, c'est-à-dire que les talibans sont arrivés effectivement forts et conquérants, mais assez déstabilisés.
Déstabilisés par leur propre rapidité, c'est ça ?
Oui, absolument. Ces gens étaient assez surpris, on le voyait sur leur visage d'ailleurs, ils avaient sur les réseaux sociaux, on voyait défiler ces images, et ils étaient parfois assez surpris de se retrouver dans les rues de Kaboul, sans savoir ce qu'ils devaient faire réellement. Parce que la réalité, c'est que l'état-major était encore assez loin du centre de Kaboul, et il y avait donc ce moment de déstabilisation et qui me permettrait sans doute, c'est ce que je me suis dit à ce moment-là, de pouvoir obtenir des talibans ce dont j'ai besoin. Mmh. Et l'idée, c'était pour moi, effectivement, de jouer sur la sensibilité afghane, parce que les talibans font partie du peuple afghan, et ils ont un principe qui est très ancré chez eux, c'est un principe ancestral, c'est le code de l'honneur et d'hospitalité. Même si, dans la discussion, même si je n'avais rien à proposer, je sentais bien que l'un de mes interlocuteurs, parce que j'ai eu plusieurs interlocuteurs...
Mais comment vous le choisissez, cet interlocuteur? Comment vous le jaugez aussi? Comment vous savez s'il va être fiable?
Alors, ce premier interlocuteur, c'est un responsable de checkpoint. Donc, il a une autorité. L'autorité, ouais. Déjà, de permettre aux gens que je veux récupérer, qui sont au-delà du checkpoint...
De passer ou non,
voilà, de les faire passer, de me les amener, ouais, à l'ambassade, ouais, de France. Et cet individu que je rencontre la première fois... je vois bien qu'il ne ressemble pas aux autres. Voilà, les combattants talibans que j'ai en face de moi, qui sont à ses ordres, on sent des vrais combattants. On voit bien dans leur regard que ils ont un regard de tueur, ils ont un regard d'illuminé. On voit bien, c'est un profil de combattant sorti de madrassa. Et ce taliban-là n'a pas ce profil. Il est urbain, on le voit bien. Il n'est pas habillé de la même façon, il ne parle pas de la même façon. Même si je parle pas couramment le dari, mais je vois bien qu'il s'exprime avec calme, très posé. Et mon traducteur me dit, oui, voilà, il est prêt à nous aider parce qu'effectivement, lui pense qu'on a besoin de lui. Mmh.
En France, dites-vous dans votre livre, on a un devoir d'assistance. Certains pays sont partis d'Afghanistan dès l'arrivée des talibans le 15 août, sans se préoccuper des personnes qui avaient travaillé pour eux. On ne raisonne pas ainsi, on n'abandonne pas ceux qui sont en danger, ainsi que leurs proches. Au fond, c'est une fierté que vous exprimez quand vous dites ça?
Oui. Oui, et ça, c'est une fierté parce que ce sont les valeurs de notre, oui, pays. Hein. Et en France, on a un principe qui est très clair. Hein. C'est pas inscrit dans le droit, c'est dans la jurisprudence française. On doit assister les ressortissants français à l'étranger. Et pour ça, on a des structures, hein, des dispositifs qui sont mis en place. Et c'est pour ça qu'on avait préparé depuis des mois l'évacuation de nos personnels afghans et de leurs familles. Et le 15 août 2021, notre mission avait été remplie. On avait terminé notre mission, on devait partir si on n'avait pas accueilli effectivement ces centaines de personnes qui nous demandaient protection.
Oui, près de 500.
Et là, c'est notre devoir aussi d'accueillir ces gens.
Vous l'avez évoqué il y a quelques instants, ce qui vous a frappé lors de l'arrivée des talibans à Kaboul, c'est la peur, l'effroi même des populations. Aujourd'hui, ces populations vivent sous la coupe des talibans. Est-ce qu'il vous arrive de vous demander aujourd'hui qui se soucie encore d'eux?
Je crois qu'on se soucie encore d'eux. Je pense que l'opinion publique internationale, effectivement, a le regard tourné ailleurs, notamment dans d'autres régions du monde, y compris en Europe. Mais il y a encore des gens qui se soucient d'eux. Il y a encore des gens qui espèrent pouvoir convaincre les talibans de revenir à la table de négociation. Et je pense qu'on a une opportunité aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on dispose de moyens financiers dont ont besoin absolument les talibans. Et je crois que le sort qui est réservé aux femmes et la famine qui est en train de se propager en Afghanistan va sans doute nous permettre de renouer un dialogue et d'obtenir enfin qu'en Afghanistan, on rétablisse les droits qui avaient été acquis pendant ces 20 années.
Merci Mohamed Bida, bonne journée.